Bonsoir à toutes et à tous. Donc au nom de la faculté de philosophie du Centre Sèvres, je suis très heureux de vous accueillir ce soir et aussi très heureux d'accueillir Dominique Lambert qui nous vient de l'Université de Namur puisqu'il y a un partenariat entre le Centre Sèvres et l'Université de Namur et nous travaillons ensemble sur un certain nombre de sujets. Et je remercie également Éric Charmetan, qui est enseignant dans la faculté du Centre Sèvres, qui va mener les débats ce soir et qui va tout de suite présenter notre invité du jour. Merci beaucoup.
Merci Guillaume pour l'introduction. Donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Dominique Lambert pour cette soirée sur les enjeux éthiques des robots militaires. Alors on peut rappeler à titre d'introduction que Dominique Lambert a une double formation de physicien, notamment sur les physiciens des champs, et de philosophe à l'Université catholique de Louvain. Il a fait notamment sa thèse en philosophie sous la direction de Jean Ladrière, donc quelqu'un qui a beaucoup travaillé à l'interface science, philosophie, qui connaissait aussi bien les limites des formalismes, la logique. Alors Dominique a écrit de nombreux ouvrages en philosophie des sciences et sur le dialogue entre science, philosophie et théologie. Parmi ces ouvrages, on peut citer « Science et théologie, les figures d'un dialogue » en 1999, qui a eu aussi des prix, et donc un ouvrage vraiment intéressant pour réfléchir sur cette interaction entre science, philosophie et théologie. On peut citer aussi l'ouvrage « Comment les pattes viennent au serpent », essai sur l'étonnante plasticité du vivant, donc avec un biologiste, René Lécheadze, si je prononce à l'hongrois, je ne sais pas si c'est pas comme ça qu'il faut prononcer, en 2004. Et puis aussi, depuis de nombreuses années, il travaille sur l'œuvre de Georges Lemaître, notamment avec un très beau livre sur l'itinéraire spirituel de Georges Lemaître en 2008. Il y a encore bien d'autres ouvrages, mais ça vous donne une petite idée de cette variété de sujets que Dominique aborde. Et depuis donc quelques années, enfin je vais y revenir, il travaille autour de l'intelligence artificielle et des robots militaires. Alors, très récemment, en fait, donc je crois que ça fait quelques semaines, son dernier livre, c'est « Que penser de la robotique et l'intelligence artificielle ?» donc qui est sorti aux éditions Fidélité, donc que je vous recommande vivement, parce que ça donne vraiment une bonne introduction à ces questions, et puis vraiment à cette dimension juridique, politique et éthique de ce domaine. Alors, il serait vraiment fastidieux de faire la liste de tous les groupes et projets de recherche auxquels Dominique Lambert participe depuis les années 90, mais on peut tout de même mentionner son intégration à l'Académie royale de Belgique dans la section des sciences depuis 2005 et sa participation comme expert du Saint-Siège auprès de l'ONU sur la question des systèmes d'armes autonomes, des armes létales aussi, enfin. Depuis 2014, peut-être c'est plus ancien encore, enfin j'ai noté au moins 2014, et ici, plus modestement, enfin dans le cadre de cette coopération avec l'Université de Namur, nous animons ensemble un séminaire de recherche sur les questions épistémologiques et anthropologiques suscitées par l'intelligence artificielle. Alors nous sommes donc très heureux de pouvoir t'entendre, Dominique, sur ce sujet ce soir, et peut-être avant de te laisser tout de suite la parole, on peut rappeler que ce thème des robots tueurs est très présent dans la littérature de science-fiction et le cinéma depuis de nombreuses années. On peut se rappeler aux réflexions d'Isaac Asimov sur les lois de la robotique, d'une robotique qui pourrait être bienfaisante pour l'humanité, ou en tout cas qui éviterait de la détruire ou de lui nuire, ou encore le film Terminator en 1984, qui a eu quand même un grand succès et qui a marqué les esprits en fait sur cette possible dérive de robots qui se mettraient à tuer des humains. Mais plus récemment, on peut dire que la réalité a rejoint la fiction. avec les robots garde-frontières entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, donc des robots enfin militaires qui sont capables éventuellement enfin de tirer sur des gens qui franchiraient la frontière. Et encore peut-être aussi très présent dans nos esprits, c'est l'usage assez intensif depuis la fin des années 2000 des drones militaires, et notamment pour ceux qui ont vu ce film Good Kill d'Andrew Niccol, donc c'est qui raconte l'histoire de pilotes de drones et comment ils tuent des personnes en fait en Afghanistan à des milliers de kilomètres tout en rentrant tranquillement dans leur famille le soir aux États-Unis. Et donc en fait les questions que ça pose de l'écart entre la vie de ceux qui pilotent ces drones et puis ce qui se passe sur des théâtres d'opération à des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres. Alors compte tenu de toutes ces questions qui se posent, vraiment c'est un sujet important et on peut se dire, est-ce qu'il est souhaitable, voire légitime, de confier des actions militaires à des robots, jusqu'où, dans quel régime d'autonomie et de contrôle? Et est-il possible de développer, de déployer des armes autonomes sans risquer l'annihilation de l'humanité? C'était la question qui s'était posée très concrètement avec le développement de la bombe atomique dans les années 40. Comment est-ce qu'on allait pouvoir éviter de s'autodétruire? Et c'est quelque chose qui, à mon avis, se pose à nouveau avec cette question de la robotique militaire. Alors ce sujet, enfin, comme j'ai pu l'indiquer, c'est vraiment un sujet très important pour nous, pour essayer de faire que notre monde de demain soit aussi habitable et soit permette à l'être humain de poursuivre sa vie sur Terre. Voilà, merci en tout cas pour ta conférence et ce que tu vas nous faire découvrir sur le sujet.
Merci beaucoup Eric pour cette introduction et merci de me donner l'occasion de venir ici parmi vous. C'est toujours avec une grande joie que je collabore avec le Centre Sèvres, qui est une institution auquel nous tenons beaucoup à l'Université de Namur. Merci beaucoup. Et avant de commencer, je voudrais situer mon propos en disant que je ne suis donc ni ingénieur ni militaire, bien entendu. Mais l'origine de mon intérêt pour ces questions m'est venue d'une demande de philosophes qui enseignaient l'éthique dans des écoles militaires en France, en particulier à Saint-Cyr et en Belgique à l'École royale militaire, au moment où s'introduisaient des nouvelles technologies de robotique et où se posait la question de savoir quels étaient les critères qui permettraient de réguler l'introduction de ces machines dans les armées européennes. J'ai rejoint ces groupes de philosophes et en même temps des groupes de logiciens qui réfléchissaient aux limites des algorithmes qui sont utilisés dans les robots militaires. Donc mon propos sera de préciser un certain nombre de questions à partir du lieu technique, mais pour ouvrir des perspectives éthiques et en particulier dans l'éthique proprement chrétienne. Alors je vais commencer dans un premier temps par une petite typologie de la robotique militaire qui est à mon sens un préliminaire obligé, parce que lorsqu'on se trompe de caractérisation des machines, alors on ne pose pas les bonnes questions, ou on pose des questions qui ne se posent pas de manière adéquate. Alors, bien sûr, je ne vais pas passer mon temps, ce serait trop fastidieux, à faire une classification des robots, mais je voudrais quand même commencer par reprendre la définition de ce qu'est un robot et de ce qui ne serait pas un robot. Alors, un robot, c'est un système qui est composé de trois éléments essentiels en interaction, des capteurs qui permettent de prendre des informations dans un environnement, d'acquérir toute une série d'informations, informations électromagnétiques, informations sonores, informations de tout genre sur l'environnement dans lequel la machine évolue, donc des capteurs, mais aussi des processeurs, c'est-à-dire, et c'est là que l'intelligence artificielle intervient, ce sont des logiciels qui traitent les informations acquises et qui permettent de procéder à, et c'est le troisième aspect du robot, à une action, une rétroaction sur l'environnement grâce à des effecteurs, grâce à une série d'éléments qui permettent d'agir sur l'environnement. Donc un robot, c'est d'une certaine manière un complexe de trois éléments, capteur, effecteur et capteur, processeur et effecteur. Maintenant, les processeurs donnent au système un certain type d'autonomie. Et donc, associé à l'idée de robot vient l'idée d'une certaine autonomie qu'il faudra préciser. Et ce caractère d'autonomie, bien entendu, a des incidences sur les questions légales ou morales que l'on pourra poser à leur propos. Et je reviendrai sur cette question d'autonomie. Maintenant, il faut remarquer que un système robotisé est d'une certaine manière nécessairement complexe et en fait, on devrait distinguer, si on était précis, des robots physiques et des robots électroniques. Donc, les robots physiques sont, donc Eric citait les drones tout à l'heure, bien les drones que nous avons aujourd'hui ont ces trois éléments, capteur, processeur et effecteur, mais ils agissent dans un espace physique, dans l'espace géographique. Mais vous avez aussi des machines qui ont ces trois caractéristiques-là, mais qui n'agissent pas dans l'espace physique, mais dans le cyberespace. Si vous pensez par exemple aux robots que l'on utilise en finance, dans le high frequency trading, donc des machines qui captent en permanence des informations sur les cours de la bourse, sur des informations financières en temps réel, qui les traitent, qui les comparent avec d'autres informations et qui, d'une certaine manière, envisagent des opérations boursières à très haute vitesse, quand je dis à très haute vitesse, de 100 000 à 1 million de transactions boursières à la seconde. Hein. Donc ces machines agissent sur le marché. Donc elles tirent de l'information financière, elles la travaillent grâce à des logiciels et puis décident d'acheter ou de vendre, donc réagissent sur le marché. Mais ces machines ne sont pas des machines physiques, ce sont des machines électroniques, c'est ce qu'on pourrait appeler des e-bots, des electronic robots, et on les a parfois sous-estimés, mais bien entendu, ce genre de machine peut avoir des effets non négligeables sur le monde réel. Le virtuel a des effets énormes sur le monde réel, et si vous imaginez qu'il faut une demi-minute pour arrêter ce genre de machine, à 100 000 ou 1 million de transactions à la seconde, $20 à l'action, ça peut entraîner des pertes considérables si on détecte un problème et qu'on doit arrêter la machine. Donc, ça veut dire que ce genre de machine a vraiment un impact sur l'espace réel. Et du point de vue militaire, de plus en plus, on est confronté également à des robots électroniques. Et je renvoie à ces deux livres très intéressants, un livre assez général de David Sanger, The Perfect Weapon, qui a montré comment aujourd'hui se pratique la guerre électronique. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ceux qui s'intéressent aux problèmes légaux devraient consulter alors le livre de Dennis, qui est un livre classique, Cyber Warfare and the Laws of War, qui montre toute la difficulté de gérer la guerre quand elle se pratique dans le cyberespace. Par exemple, les juristes sont aujourd'hui confrontés à de plus en plus de questions. Par exemple, quand est-on dans un état de cyberguerre? Comment identifier les acteurs? Vous savez que dans le droit international humanitaire, une distinction fondamentale est celle qui est faite entre combattants et non-combattants. qui dans le cyberespace peut être considéré comme combattant, qui n'est pas combattant, à partir de quel moment peut-on déclencher une riposte, quelle est la riposte proportionnelle à une attaque, à une cyberattaque, sachant que je peux mettre à plat l'industrie nucléaire, hein, comme l'ont prouvé des attaques contre les centrifugeuses en Iran, par exemple, quand on sait qu'on peut perturber des hôpitaux, qu'on peut perturber des élections dans les pays démocratiques en faisant des cyberattaques, si vous voulez, quel genre de cadre légal pourrait-on donner aux réactions à ces cyberattaques? Vous voyez, est-ce qu'une réponse conventionnelle à une attaque cybernétique, est-ce qu'elle serait tolérable? Jusqu'où aller? Qu'est-ce que c'est la proportionnalité, etc. Et donc, énormément de questions aujourd'hui sont posées dans le champ du droit, mais bien entendu aussi dans le champ de l'éthique. Mais sachant qu'un adolescent, quelque part dans une chambre, pourrait perturber un système s'il est un peu qualifié en informatique, est-ce qu'on pourra le considérer, oui ou non, comme un combattant, sachant que plusieurs personnes entrent, militaires et civils, dans un réseau très complexe? Comment va-t-on identifier les responsabilités dans ce genre de choses? Le problème des robots électroniques agissant dans le cyberespace est quelque chose de très complexe, et il faudrait probablement une autre conférence pour l'aborder, et je ne suis pas le plus qualifié pour le faire. Mais je voulais d'emblée dire que la définition de robot, au sens système complexe doté de capteurs, de processeurs et d'effecteurs, n'est pas limitée aux objets mécatroniques, si vous voulez, formés d'objets réellement physiques. D'ailleurs, certains ingénieurs considèrent parfois que les e-bots ne sont pas tout à fait, ne devraient pas être tout à fait appelés des robots. J'ai un collègue, très bon collègue, à Louvain-la-Neuve, dans la maîtrise en robotique médicale, qui considère, lui, que le robot n'est pas le bon terme, mais enfin, il a quand même ces trois composantes, et on peut discuter, si vous voulez, on pourrait discuter cela. Maintenant, si on revient aux robots physiques, qui seront plutôt ceux que je vais considérer dans le domaine militaire, donc il importe de préciser ce que l'on entend par autonomie de ces robots militaires, et de dire en plus que souvent, à cette notion de robot militaire, physique, hein, on associe la capacité d'être récupéré. Ainsi, des missiles de croisière sont des systèmes hautement robotisés, mais ils ne sont pas considérés, si vous voulez, je ne les considérerai pas ici, parce qu'une fois qu'ils ont atteint leur cible, on ne peut plus les faire revenir, bien entendu. Et donc, toute une série de systèmes téléopérés qui explosent sur leur cible n'entreront pas dans les considérations ici, parce qu'un certain nombre de questions, bon, évidemment des questions éthiques se posent, bien entendu, à ce propos-là, mais en général, les questions que l'on pose aujourd'hui, ce sont les questions qui sont posées à partir de robots physiques récupérables, si vous voulez. Bon. Alors, je ne vais pas non plus considérer des robots militaires qui sont utilisés dans à des fins logistiques. Par exemple, on a aujourd'hui dans différentes armées, les États-Unis, il y a un casque qu'on appelle la mule, qui est un robot qui permet le transport de charges très très lourdes, par exemple, et qui se comporte effectivement comme un espèce d'animal. Mais ces robots qui sont logistiques, ou les robots sanitaires pour le transport des blessés, ou bien des robots de maintenance, etc., je ne les considérerai pas, et pas non plus des robots qui sont extrêmement utiles dans les armées aujourd'hui. Ce sont les robots les simulateurs. Ici en France, on a des simulateurs de sous-marins, par exemple, pilotage de sous-marins. C'est des systèmes robotisés avec de l'intelligence artificielle, ou des simulateurs de vol pour l'armée de l'air, etc. Ce sont des robots militaires, mais ce ne sont pas les robots dont je vais parler. Il pose bien entendu toute une série de questions. Hein. Si on pense aux robots autonomes transport de charges, ces systèmes posent les mêmes questions que le Google Car ou les voitures autonomes. Il y a des questions importantes légales et éthiques, mais je n'entrerai pas dans le système parce que je veux, moi, envisager d'emblée des robots qui sont armés, si vous voulez, parce que ce sont ceux-là qui posent les questions les plus épineuses. Bon, maintenant, pour complexifier, je voudrais dire aussi que il faut vraiment distinguer les. Une fois qu'on s'intéresse aux robots armés physiques, il faut distinguer toute une série de concepts. Et selon les concepts que l'on distingue, les questions ne seront pas les mêmes. Si on prend les robots, on peut distinguer des robots qu'on pourrait appeler des systèmes automatiques. Mais on pourrait aussi avoir des systèmes automatisés et puis des systèmes autonomes. Alors, un système automatique, c'est un système qui exécute une tâche suivant un programme de manière rigoureuse, sans la possibilité de dévier des objectifs et de l'environnement prescrit. Donc des systèmes d'armes automatiques. Donc on a parlé tout à l'heure des sentinelles, des robots sentinelles qui sont à la frontière entre le Nord et le Sud Corée. Ce sont des robots qui sont capables d'identifier une cible dans la zone neutre, qui sont capables de faire des sommations, éventuellement de tirer sur la cible sans la médiation humaine, bien que dans la plupart des cas, c'est soumis à une supervision d'une autorité humaine, si vous voulez. Mais ces systèmes ont un programme bien déterminé et sont placés dans des zones géographiquement balisées. Et ça a évidemment une importance extrême pour le droit international humanitaire, parce que les plaçant dans cette zone neutre, normalement, il ne peut pas y avoir dans cette zone des civils. Bon. Maintenant, on voit le problème, parce que, bien entendu, quelqu'un qui développerait ces systèmes sans tenir compte qu'éventuellement un enfant pourrait débouler dans cette zone et bon, sans prendre en compte la possibilité d'avoir une perturbation dans la zone, eh bien, serait susceptible de commettre une faute du point de vue légal et moral. Mais il doit donc assurer que l'environnement géographique est balisé de telle sorte que le droit international humanitaire pourrait ou devrait être respecté. Bon. Mais un système automatique, c'est un système qui ne prend pas d'initiative, qui suit un programme bien strict et ne pouvant pas sortir de l'environnement déterminé. Ça, c'est pour la question des systèmes automatiques. Hein. Bon. Maintenant, un système automatisé, c'est un système qui permettrait l'exécution d'une tâche, mais avec la possibilité de s'adapter à des situations changeantes, des situations que le robot rencontrerait lors de la mission qui lui est imposée. Mais il aurait la possibilité de s'adapter sans changer les objectifs de la tâche, à la manière d'un pilote automatique, d'un pilotage automatique d'un avion. L'avion, le pilotage automatique, s'adapte aux situations de l'avion, mais bien entendu, ce système ne se redonne pas un cap totalement différent, ou bien ne fait pas totalement ce que le pilote a prescrit, si vous voulez. Donc il y a ce qu'on pourrait appeler un système de supervision. Je parlais tout à l'heure des missiles de croisière, mais les missiles de croisière, c'est des systèmes hautement automatisés en ce sens-là. Ce n'est pas des systèmes strictement automatiques, mais ce sont des systèmes automatisés, mais qui sont, d'une certaine manière, astreints à suivre des objectifs très, très stricts et ne peuvent pas en sortir. Des systèmes, on pourrait aussi citer un cas extrêmement important aujourd'hui, et je le cite parce que je vais vous montrer la difficulté de classifier les systèmes, des systèmes de défense anti-mortier ou anti-missiles qu'on utilise par exemple sur les navires. La plupart des pays aujourd'hui ont des systèmes anti-missiles, style Phalanx, ou bien des systèmes de défense anti-mortier qui sont utilisés sur les théâtres d'opérations extérieures, ce qu'on appelle des systèmes SARMO, Search and React to Military Objects. Ce sont des systèmes qui détectent des menaces et qui induisent automatiquement, s'ils sont mis sur un mode, si vous voulez, entre guillemets, autonome, détruisent le projectile qui vient. Eh bien, ces systèmes, pourrait-on dire, sont automatisés et on pourrait dire ne pas présenter beaucoup de problèmes. On pourrait dire c'est une question de défense, une légitime défense, si vous voulez. Bon, mais on voit tout de suite que un problème peut se poser parce que bon, légitime défense, mais dans quel environnement? C'est-à-dire, je peux très bien me défendre contre un projectile qui vient vers moi, mais en me défendant, j'élimine le projectile, mais en même temps, je détruis, par exemple, une école qui se trouve à proximité. Donc, la question de ces systèmes de défense n'élimine pas la question du respect du droit international humanitaire, bien entendu, et aussi pourrait induire d'autres choses. Si vous êtes capable de détecter, de caractériser la trajectoire du projectile qui vient vers vous, alors vous êtes capable aussi d'identifier la provenance du tir. Et si vous identifiez la provenance du tir, vous pouvez déclencher un tir de réaction sur la zone d'où vient le projectile. Mais cette zone peut évidemment contenir des installations civiles, peut être hautement dense en civil, etc. Et donc, ces systèmes de réponse automatique posent également un certain nombre de questions. Ils sont en partie légitimes quand ils respectent le droit international humanitaire dans des zones prescrites, mais tout le problème est de savoir comment on fait pour assurer cela. Surtout dans des contextes aujourd'hui où la plupart des combats terrestres se font dans des zones urbaines, hautement peuplées, etc. Bon. Donc, il est nécessaire de distinguer, pour baliser les questions, voyez, des systèmes automatiques, des systèmes automatisés, qui sont des systèmes sur lesquels l'humain a une supervision et peut prescrire un certain nombre d'objectifs qui implémenteraient des intentions humaines. Bon. Maintenant, si on passe au système que l'on discute aujourd'hui dans la conférence sur la convention des armes conventionnelles à l'ONU, je reviendrai sur cette convention un peu plus tard. Dans cette conférence, on discute non pas les différents systèmes que je viens de mentionner, mais des systèmes qui seraient, eux, plus autonomes, dans le sens suivant, et j'ai cité la définition que donne le Comité international de la Croix-Rouge. Donc, les systèmes d'armes autonomes sont des systèmes définis de la façon suivante. Ils sont autonomes du point de vue de ce qu'on appelle les fonctions critiques. Et les fonctions critiques d'un robot militaire, c'est la sélection des cibles et l'engagement de la cible. Hein. Donc, c'est une arme qui peut sélectionner, donc détecter, identifier et attaquer, donc utiliser la force pour neutraliser, endommager ou détruire des objectifs sans la médiation humaine. Donc ces armes, une fois en mode autonome, ils peuvent alors sélectionner et engager une cible sans médiation humaine. Et bien entendu, les problèmes que l'on rencontre dans ce contexte-là sont des problèmes d'une toute autre nature que précédemment, puisque vous autorisez un système à agir, mais sans cible prescrite a priori. Bon. Maintenant, on va voir si cela présente un certain intérêt du point de vue militaire et quelles sont les questions que cela poserait. Alors, cette définition a quelque chose d'un peu est autoréférentielle d'une certaine manière puisqu'elle définit l'autonomie par l'autonomie. Un système d'armes autonomes est défini par une autonomie dans les fonctions critiques. Mais d'une certaine manière, on pourrait traduire cette définition en disant que un tel système est celui qui, une fois activé, est capable, sans médiation humaine, de pouvoir choisir et engager une cible donnée. Alors, on pourrait avoir l'impression qu'avec cette définition, on recouvre celle aussi des systèmes automatisés, puisque un système automatisé pourrait avoir ce genre de choses-là. Mais en fait, la grande différence, pour bien comprendre, c'est que les systèmes de défense et les systèmes automatisés ont un champ rigoureusement délimité, en fait. Et il y a une borne dans le champ d'action. Tandis qu'ici, dans la définition, aucune borne n'est donnée sur le champ d'action des machines. Donc la machine pourrait éventuellement sortir de son champ géographique initial si, d'une certaine manière, son logiciel a, d'une certaine manière, calculé une utilité plus grande de prendre un autre chemin ou de redéfinir un certain nombre de cibles. C'est bien là le problème. En fait, il y a, si vous voulez, tout un spectre de machines, et au cœur de l'autonomie, on pourrait avoir aussi tout un spectre d'autonomie. Par exemple, vous pourriez avoir des systèmes qui sont autonomes, mais seulement dans un certain environnement. Et ça arrive quand on ne peut pas, par exemple, superviser l'action d'un robot. Par exemple, si vous pensez au robot sous-marin, par exemple, on ne peut pas téléguider un sous-marin. Bon. Donc, nécessairement, un sous-marin sans pilote doit avoir quelque chose comme une capacité d'autonomie. Bon. Maintenant, bien entendu, aucune force armée ne voudrait disposer de sous-marins qui peuvent faire tout et n'importe quoi dans n'importe quelle zone. Et donc, bien entendu, il y a des systèmes qui doivent prescrire certaines zones d'action et interdire d'en sortir, etc. Bon. Donc, on pourrait imaginer que des systèmes soient autonomes, mais seulement dans certaines zones, ou des systèmes autonomes, mais doués d'une supervision, une sorte de supervision humaine qui, de l'extérieur, pourrait éventuellement éviter des comportements que l'on ne voudrait pas. Donc, ce qui est aujourd'hui, disons, intéressant, c'est de ne pas tomber dans une classification trop simpliste, parce que d'une certaine manière, elle ne correspondrait pas à la réalité. Donc, personne ne voudrait de système totalement autonome qui ferait tout et n'importe quoi et qui passerait outre des intentions politiques ou militaires. Mais d'une certaine manière, je vais expliquer pourquoi, l'autonomie aujourd'hui est revenue sur le devant de la scène. Mais si on prend l'autonomie, j'ai parlé d'autonomie, l'autonomie elle-même peut être déclinée aussi de différentes manières. Par exemple, vous pourriez avoir un système qui est autonome du point de vue du pilotage. Donc, par exemple, le robot, Curiosity sur Mars, ou un robot armé sous-marin pourra avoir une autonomie du point de vue du pilotage dans la zone qui lui est, imposée. Mais une machine pourrait avoir aussi une autonomie au point de vue des fonctions critiques. Donc avoir une autonomie du point de vue du pilotage, ce n'est pas avoir une autonomie du point de vue des fonctions critiques. C'est encore différent. Hein, vous pouvez autoriser un système à avoir une autonomie, je ne sais pas moi, par exemple, si les communications sont coupées, le système est capable de revenir à sa base ou est capable de continuer à se mouvoir, mais sans, par exemple, avoir une autonomie du point de vue de la sélection des cibles ou de l'identification ou de l'engagement d'une cible. Donc ça, c'est très différent du point de vue légal et du point de vue éthique. Maintenant, si on prend les logiciels, on pourrait très bien avoir des systèmes qui ont des logiciels et ces logiciels ont été programmés de manière stricte. Donc ce sont des machines autonomes, mais l'autonomie est soumise à une programmation qui est stricte, si vous voulez. Mais bien entendu, aujourd'hui, on a des systèmes qui pourraient se reprogrammer eux-mêmes. Des algorithmes génétiques, par exemple. Hein. Des algorithmes qui changent, qui mutent, de telle manière à pouvoir s'adapter à des situations nouvelles. Bon. Vous pouvez avoir des algorithmes qui ont été drillés, qui ont subi un apprentissage supervisé. Donc vous avez des machines basées sur des logiciels style réseau de neurones où on va apprendre à la machine à reconnaître un certain nombre de cibles. Bon. Mais on connaît les dangers de ce genre de système. Vous avez probablement entendu parler de ce robot-là électronique conversationnel qui avait été mis sur le réseau et qui faisait de l'apprentissage non supervisé et qui, en une semaine, est devenu raciste, violent, etc., parce que simplement, il dialoguait avec des acteurs sur le réseau, de façon non supervisée. Et donc, il a pris les habitudes des gens avec lesquels il conversait. Ça, c'est de l'apprentissage non supervisé. Bien entendu, une machine comme cela, aucun militaire un peu sensé ne pourrait simplement faire de l'apprentissage non supervisé, parce que cet apprentissage dépend de l'environnement dans lequel on est, et ça voudrait dire, d'une certaine manière, admettre n'importe quoi suivant les contextes dans lesquels la machine a été placée. Donc, on peut admettre des apprentissages machines, mais bien entendu, cet apprentissage doit être soumis à une supervision humaine. Maintenant, ça n'enlève pas tous les problèmes éthiques liés à cela, parce que même si c'est supervisé, vous pouvez superviser un apprentissage et induire dans le logiciel des biais. Par exemple, il y a eu quelques exemples de machines, de drones, qui avaient des capacités de tir avec un certain nombre de signatures qu'ils pouvaient reconnaître dans l'environnement dans lequel ils étaient. Mais si vous apprenez un système à reconnaître un certain nombre de caractéristiques dans un environnement, vous pourriez dire, mais alors ça peut être intéressant parce que les tirs ne seront pas pris n'importe comment, sur n'importe quelle cible, etc. Mais vous pouvez induire des biais aussi. Implicitement, vous introduisez dans la machine, par exemple, les cas qui me reviennent à l'esprit, c'est un cas où il y avait un groupement de personnes qui étaient jeunes, qui portaient des fusils, qui étaient à proximité d'une base militaire, etc., et le drone a déclenché un tir. Bon. Mais il se fait que c'était une fête, simplement tribale, de passage à l'adolescence, et comme dans certains villages de Belgique en particulier, que j'ai connu, les gens tiraient à la carabine lors de mariages, etc. Et donc, le système de reconnaissance de forme avait été habitué à reconnaître des fusils, des groupements d'un certain type, etc., et à déclencher un tir qui a tuer un certain nombre de personnes. Donc, les biais d'apprentissage sont des choses importantes dont on n'est pas conscient, oui, parce que souvent, l'apprentissage se fait dans des contextes où on a oublié que nous-mêmes, nous avions des biais. Et donc, c'est extrêmement important d'être conscient des questions qui se posent dans des machines militaires douées de capacité d'apprentissage. L'apprentissage non supervisé, évidemment, quelque chose qui pose des problèmes. Maintenant, on pourrait se dire que dans des situations inédites, peut-être que la machine va découvrir elle-même, par un apprentissage non supervisé, des solutions nouvelles à des problèmes qui seraient acceptables. Donc, la question est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le penser. Mais donc, autonomie du point de vue du pilotage, autonomie du point de vue de la programmation, donc un programme capable de se reprogrammer lui-même, et autonomie ou non du point de vue de l'apprentissage. Pilotage, apprentissage, programmation. Tous ces niveaux induisent des degrés de liberté, d'autonomie machine, qui posent des questions différentes du point de vue du droit et du point de vue de l'éthique. D'accord ? Donc, nous avons tout un spectre qui va des systèmes les plus automatiques aux systèmes les plus autonomes, mais dans cette classification, nous avons des systèmes qui sont autonomes, pas toujours, qui ont des modes d'autonomie. La sentinelle sud-coréenne peut être mise en mode autonome, mais n'est pas obligatoirement en mode autonome. Elle peut être supervisée par un opérateur. Des systèmes de drones sous-marins pourraient être supervisés en partie, du moins, pas tout à fait, puisque c'est pas possible, etc. Et cette classification va induire pour nous différentes questions. Bon, alors, j'en viens maintenant à la question de la supervision. Donc j'ai dit, d'une certaine manière, l'autonomie doit être mise en concurrence avec l'idée de supervision. Mais la supervision humaine doit être effective et significative. Parce qu'on pourrait dire, vous supervisez un système, mais comment, par exemple, superviser un sous-marin qui ne peut pas être télécommandé, si vous voulez, qui vous échappe du point de vue de la communication. Comment superviser un système de réponse antimissile où le temps de réaction de l'humain est tellement long que vous seriez détruit pendant votre temps de réflexion, si vous voulez. Bon. Maintenant, d'une certaine manière, on pourrait se dire, dans certains cas, même si le temps est court, la médiation humaine est extrêmement importante. Vous avez sûrement entendu parler du cas qui est cité souvent à l'ONU, qui est le cas du colonel Petrov. Et c'est un cas célèbre, ce n'est pas le seul. Il y a deux cas durant la guerre froide où un officier soviétique a refusé d'exécuter un tir de riposte. Un, c'était dans le cas aérien, l'autre dans le cas sous-marin. Et le cas du colonel Petrov, je le rappelle, c'est un cas où, dans les années 80, le système de défense antimissile d'Union soviétique a enregistré, a détecté 5 missiles venant des États-Unis qui se dirigeaient vers l'Union soviétique. Tous les systèmes informatiques donnaient la possibilité d'une riposte. Donc c'était une menace réelle, la riposte était possible, etc. Bon. Mais les Soviétiques, d'ailleurs comme les autres armées, avaient maintenu une supervision humaine. Et le colonel Petrov a refusé de déclencher le tir de riposte alors que tout l'obligeait à le faire d'une certaine manière pour la raison suivante. Il a dit, si c'est un tir de 5 missiles, c'est sûrement pas une attaque crédible. Parce que pour avoir une attaque crédible, il faut envoyer énormément de missiles, sinon vous ne touchez pas tous les sites de riposte possible et vous allez vous faire détruire. Donc, 5 missiles, c'est sûrement pas une attaque crédible. 2, je ne prends pas le risque de tuer des millions de personnes simplement par ma décision personnelle. Et il a dit, je ne tire pas. Et en fait, on s'est rendu compte en fait que c'était une erreur dans le système d'identification. Si on regarde ce qui s'était passé, c'est que le système de détection se basait sur la chaleur dégagée par les tuyères des missiles. Et il se fait qu'il y avait un effet de réflexion sur des nuages qui avait fait prendre pour cette température-là était liée à un reflet du soleil sur les nuages. Il faudrait voir le détail précis, mais c'est une erreur d'identification. Et le fait d'avoir maintenu un maillon faible, lent, a fait qu'on a évité la catastrophe. Sur un certain nombre de navires aujourd'hui, il y a des systèmes de contre-missiles. Et on maintient une supervision humaine pour éviter éventuellement des erreurs d'appréciation que la machine ne pourrait pas voir. Donc, mais dans certains cas, on pourrait dire la réaction doit être tellement rapide que l'humain n'aurait pas le temps de réfléchir. Donc, quand on parle de supervision de robots automatisés ou autonomes, il faut encore que cette supervision soit effective. Bon, dernièrement. Un officier de la marine indienne me disait que sur les navires dans leur armée, donc ils avaient maintenu une supervision humaine, justement pendant de l'ordre d'une minute, d'avoir la possibilité de juger si effectivement il y a une véritable menace ou non. Donc le temps, on pourrait dire le temps est court, mais parfois le temps est dense et important pour notre sécurité. Tout à l'heure, je parlais des robots financiers. Vous pouvez avoir des pertes financières énormes si la machine dysfonctionne. C'est pour ça que, du point de vue légal, on met des bornes à la vitesse des transactions et on maintient une supervision humaine, parce que l'humain, lui, est capable peut-être de juger quand il faut arrêter le processus, etc. Bon, je n'entre pas dans ce détail-ci, mais donc je vous ai donné la définition de robot. Je vous ai donné toute une classification des robots de l'automaticité jusqu'à l'autonomie. J'ai complexifié la notion d'autonomie, pilotage, apprentissage, programmation, et toutes nos questions éthiques et légales doivent être posées dans ce contexte complexe. Donc, quelqu'un qui éviterait d'entrer dans cette complexité ne poserait pas les bonnes questions éthiques et légales. Bien entendu, ça pose d'énormes questions. Qu'est-ce que c'est vraiment l'autonomie d'une machine? et quand on discute au niveau international, éventuellement de bannir des systèmes d'armes létales autonomes, les fameux LAWS, Lethal Autonomous Weapon Systems, il faut encore s'entendre sur ce qu'on entend par autonomie, type d'autonomie, etc. Bon. Bien. Alors, ces machines, et je voudrais juste faire une petite parenthèse, ces machines sont le produit de notre société. Hein. Une technologie n'est jamais, d'une certaine manière, dissociée de la société qui l'a produit, et en même temps, la société induit une demande technologique. Donc, si on relit les philosophes de la technologie, on voit qu'il y a une sorte de lien dialectique entre la technologie et le monde qui la produit. En fait, notre société a induit une demande de telles machines. On pourrait se demander, mais pourquoi a-t-on besoin de ce genre de machines? Mais notre société a induit cette demande. Nous sommes dans une société extrêmement complexe, avec une interdépendance d'acteurs dans le contexte de la globalisation, une société extrêmement complexe, que les acteurs humains ne peuvent plus gérer eux-mêmes. Bon. Donc, d'une certaine manière, il faut des machines. Et des machines douées d'un certain nombre de degrés de liberté pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes que l'humain ne peut plus résoudre. Deux, on est dans une société de la rapidité. Nous sommes malades de la rapidification, dit-on parfois. Rapidité des échanges des personnes, d'informations, de biens, etc. Et face à cette rapidité, l'homme est dépassé. Et donc, utilise des moyens pour continuer à traiter ces échanges. Trois, on est dans une société qui veut maximiser les profits et minimiser les pertes. Nous sommes dans une société proprement utilitariste qui veut faire des choses pour maximiser le profit, mais avec des risques minimes. Bon, on veut intervenir dans tel et tel champ pour préserver nos intérêts, etc. Mais on veut le faire sans perte humaine. Et donc, de plus en plus, la technique de la guerre avec zéro victime d'un côté, évidemment pas zéro victime, c'est d'un côté de celui qui utilise des machines, cette théorie de la guerre sans victime est est induite par une société qui veut maintenir un certain nombre d'intérêts, mais qui ne veut plus perdre ou qui ne supporte plus de perdre une seule vie pour réaliser ces objectifs-là. Et aujourd'hui, la perte d'une seule vie humaine, et évidemment, bien entendu, c'est tout à fait légitime, est perçue de plus en plus comme une catastrophe, et c'est une catastrophe, bien entendu. Hein. Mais on pourrait dire, dans nos sociétés, nous admettons de faire un certain nombre d'opérations, mais nous ne supportons de moins en moins de perdre la moindre personne. Donc, d'une certaine manière, si on peut utiliser des machines qui font la guerre à notre place, tant mieux pour nous. Et donc, dans le fond, le développement de machines qui font la guerre à notre place sans perte humaine est d'une certaine manière lié à une société qui, dans le fond, fait la guerre à distance sans engager trop de personnel humain. Maintenant, je reviendrai sur cette question-là parce que c'est peut-être un leurre, mais c'est clairement un discours que l'on entend. Un discours où on dit, mais voilà, on veut continuer à faire des opérations, mais sans perdre des vies humaines. Donc, la notion de robot s'introduit tout à fait naturellement. Maintenant, la notion de robot s'introduit aussi naturellement parce que nous sommes dans une société de la surveillance. Hein. On est dans... Zuboff parlait du capitalisme de la surveillance. Hein. Nous sommes dans une société de plus en plus surveillée parce que notre société complexe est une société où il y a de plus en plus de risques. Et la surveillance s'impose, et cette surveillance, nous ne pouvons plus la faire par des moyens humains, donc on la fait faire par des moyens robotisés. Hein. Les drones, même non armés, peuvent servir, et aussi, pour s'ils ne sont pas armés, pour des choses très très bonnes, surveiller des feux de forêt, surveiller toute une série d'installations, etc. Mais notre société basée sur de la surveillance à haute dose a induit l'utilisation de machines qui font cette surveillance. Oui. Nous sommes dans une société marquée par ce qu'on a appelé l'infobésité, donc on a une information qui vient de tous côtés, mais on ne peut plus traiter toutes les images. Il faut des systèmes d'intelligence artificielle, il faut des systèmes robotisés qui vont traiter les images et en extraire les, on pourrait dire, en extraire des informations concernant les menaces, et, etc. Donc je dis ça pour dire que on pourrait se demander pourquoi se pose-t-on des questions sur ce genre de machines. Mais notre société a induit petit à petit le recours à ces machines. Et ces machines, une fois installées dans notre société, vont d'une certaine manière déterminer le type de société dans lequel on va façonner un certain nombre de choses. Par exemple, du point de vue militaire, bien entendu, cette volonté de faire la guerre à distance, avec le moins de personnes possible, qui est aussi liée au fait qu'on veut diminuer les coûts de la défense et maximiser les résultats, c'est vrai, c'est aussi ça. On diminue le nombre de soldats, mais on veut continuer à faire un certain nombre d'opérations. Donc, ces machines s'introduisent. Mais une fois que ces machines sont introduites, ça va structurer différemment les forces armées. Par exemple, ça va modifier les chaînes de commandement. À partir du moment où il y a des machines qui s'introduisent en permanence dans les chaînes hiérarchiques, on perturbe le système de commandement classique, si vous voulez. Bon. Donc, les machines induites par une société, mais ces machines-là vont façonner la société d'une certaine manière. De la même manière que nos iPhones façonnent notre vie. C'est-à-dire, autrefois, quand j'arrivais dans un arrêt de bus, je pouvais saluer les gens, etc. Mais maintenant, les relations sont différentes parce que chacun est dans sa bulle. Et voilà. Donc, il y a les iPhones permettent des communications très rapides, etc., dans une société hyper connectée. Mais cette hyperconnexion a induit un type de société très particulière dans lequel les relations humaines sont quelque peu modifiées. Je ne suis pas technophobe, rassurez-vous, mais c'est simplement un petit exemple qui suggère ça. Du point de vue militaire, c'est très clair. Hein, donc il y a une modification de la manière de faire la guerre qui est liée à ces machines. Oui. Et en même temps, ces machines ont été induites par une certaine demande de la société. Bon. Une société qui a les moyens d'ailleurs de les construire, parce que c'est aussi une arme qui est faite dans des sociétés qui ont les moyens de les développer aussi. Bon. Je reviendrai sur cette question-là. Bon. Deux, comment poser les questions éthiques et aussi légales concernant ces robots. Eh bien, une des pistes possibles, qui est une des pistes qui est utilisée aujourd'hui classiquement, c'est de voir comment ces technologies de robots militaires ont eu des conséquences sur, on pourrait dire, la théorie classique de la guerre. C'est la théorie classique de la guerre, dite juste, si vous voulez, hein. On dirait aujourd'hui, impact sur le droit international humanitaire. Alors, le droit international humanitaire, le droit de la guerre, finalement, peut être abordé de trois façons différentes. Le droit de la période d'avant les conflits, le jus ad bellum, le droit dans la guerre, jus in bello, et puis un droit qui gère le retour à la paix, si vous voulez, le jus post bellum. Alors, dans ces trois domaines, les robots militaires ont modifié le droit international humanitaire et le droit classique de la guerre, ou la théorie de la guerre juste, si vous voulez, entre guillemets. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, si vous pouvez utiliser des systèmes qui sont furtifs, dans lesquels vous n'avez pas de pilote, eh bien, le recours à une opération militaire est beaucoup plus facile. Hein. Donc, si vous pouvez aller observer en profondeur un pays, mais sans engager de personne, vous évitez le risque qui est arrivé au fameux pilote américain du U-2 qui s'est fait abattre en plein milieu de l'Union soviétique et qui a été donc prisonnier, considéré un otage de choix pendant la guerre froide. Mais si vous pouvez vous introduire furtivement dans un pays avec lequel vous n'êtes pas en guerre, mais pour observer toute une série de choses, c'est bien plus facile de le faire avec des drones que de le faire avec des forces spéciales, ou de le faire avec une opération tout à fait classique ou un chasseur classique, puisque vous avez là un risque accru de vous faire prendre. Donc, le seuil de déclenchement de certaines opérations s'abaisse avec ce genre de machine. Et donc, la tendance est prise éventuellement de pouvoir disons, voir s'effacer un certain nombre de retenues dans la période ad bellum, où la possibilité de faire une guerre sans perdre des personnes, eh bien, vous regardez beaucoup moins à un déclenchement d'opération. Si vous deviez engager des personnes humaines, peut-être vous auriez eu certaines résistances que peut-être vous n'avez pas quand vous avez ce genre de machine. Donc, le jus ad bellum est, d'une certaine manière, modifié par ce genre de technologie. Maintenant, ces risques, si vous voulez, entraînent aussi une sorte de perte de confiance progressive dans son propre système et dans les autres. Parce que si vous êtes, vous savez qu'en permanence vous pouvez être épié, si en permanence vous savez que vous pouvez avoir des incursions, etc., vous allez être beaucoup plus méfiant, si vous voulez. Les relations de confiance vont se modifier. Hein. Donc si vous savez que, par exemple, vos amis ont la possibilité d'aller vous espionner très facilement par des systèmes très simples, vous voyez, sans devoir aller dans votre maison, ils peuvent placer toute une série de choses et peuvent vous espionner. Imaginons qu'on ait ça. Hein. Donc aujourd'hui, vous avez votre iPhone, et vous êtes pisté. Vous êtes pisté. Donc on sait en permanence où vous avez été, dans quel magasin vous avez été, si vous avez payé avec votre carte, on sait quel genre d'article vous avez acheté, etc. Et en croisant des bases de données qui sont anonymisées, on peut vous retrouver très facilement avec des listes électorales, avec des listes d'interventions médicales, etc. On croise tout ça. Il y a eu un article récent de chercheurs, de mathématiciens qui a montré que à partir de quelques bases de données anonymisées, on peut très facilement retrouver les personnes. Oui. Bon. Donc, si vous savez ça, bien, vous êtes beaucoup plus méfiant. Oui. On peut m'espionner. Donc, la confiance entre, je ne sais pas, la confiance que vous avez dans votre hôpital, par exemple, votre médecin, quand on sait, par exemple, que dans certains hôpitaux, les hôpitaux revendent les données de leurs patients en les anonymisant. Et sachant que je peux identifier en croisant des bases de données, je vais commencer à avoir une sorte de méfiance, vous voyez. C'est un exemple de l'intelligence artificielle, mais ici, du point de vue ad bellum, la relation de confiance entre les pays risque d'être modifiée par la possibilité de ces incursions, si vous voulez, possibles. Bon. Dans le jus in bello, donc dans le droit, alors que la guerre a éclaté, on sait qu'on doit respecter, dans le droit international humanitaire, deux grands principes. La distinction entre combattants et non-combattants, et c'est lié au respect de la dignité des personnes aussi, hein, mais discrimination entre combattants et non-combattants, et réponse proportionnelle. Bon, ça vous savez très bien. Dans le cas des robots militaires aujourd'hui, des robots qui seraient autonomes, donc ils sont capables d'identifier et d'engager une cible sans la médiation humaine, risqueraient éventuellement de ne pas savoir, de ne plus donner un contenu au principe de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est qu'une réponse proportionnelle? Mais souvent, l'humain va juger, suivant des circonstances, des contextes, etc., suivant des valeurs, etc., ce qu'est une réponse proportionnelle. Mais une machine qui, d'elle-même, peut engager une cible et qui peut éventuellement, par intérêt militaire, se redonner un certain nombre de possibilités d'action pour maximiser l'intérêt militaire, par exemple. Est-ce qu'elle ne va pas être tentée de faire des réponses qui ne sont plus proportionnelles? Ou est-ce qu'on est sûr que les machines vont bien identifier les cibles? Bien identifier. Or, on sait aujourd'hui que les systèmes d'identification sont des systèmes qui sont soumis à des erreurs. On connaît bien ça dans le cadre de des réseaux de neurones, mais dernièrement, un drone a tiré sur des journalistes parce que le système de reconnaissance d'image avait pris pour un lance-roquette ce qui était le zoom d'un photographe, etc. Bon. Donc, dans la guerre elle-même, la présence de l'humain avec des capacités de jugement, de retenue, etc., est déterminant. Le droit, le respect des principes de discrimination et de proportionnalité risque d'en prendre un coup. Surtout que dans les conflits actuels, souvent, on a un mélange. Le combattant et le non-combattant ne sont plus nécessairement tout à fait identifiables dans des contextes urbains chaotiques. Vous voyez, l'officier est capable éventuellement de juger si une menace est vraiment une menace militaire, ou bien comment juger, par exemple, un combattant qui vient de déposer les armes perd son statut de combattant. Donc, un combattant malade qui dépose les armes, il n'est plus un combattant. Donc, je ne peux pas tirer sur un soldat qui a rendu ses armes et qui se rend. Bon, mais comment une machine va-t-elle apprécier ça? La différence entre un civil qui prend une arme pour tirer sur des soldats et un soldat qui rend les armes et qui ne veut plus combattre. Comment entrer dans cette distinction fine, dans ce jugement fin? Est-ce qu'une machine peut faire ça? Alors certains diront, ben oui, on va développer des systèmes de reconnaissance qui, etc. Mais souvent, les machines sont incapables de tenir compte d'un certain nombre d'indices fins qui sont dans un contexte, vous voyez, et qui sont des éléments qui sont très difficilement programmables. Vous voyez, c'est très la distinction combattant-non-combattant n'est pas si facile à identifier, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas seulement la question de l'uniforme, etc. Voilà. Et ça dépend beaucoup aussi du contexte. Donc, la satisfaction des principes du jus in bello risque, d'une certaine manière, d'en prendre un coup. Alors, maintenant, si vous considérez maintenant des robots qui seraient téléopérés, donc des robots comme nos drones actuels. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui de systèmes qui sont totalement autonomes. D'ailleurs, ça, on n'en voudrait pas. Mais on a des systèmes téléopérés. Alors, les systèmes téléopérés posent la question que posait Eric, c'est-à-dire on les pilote à très grande distance. Par exemple, pour ce qui est des Américains dans le désert du Nevada, on pilote des drones qui opèrent en Afghanistan ou dans des vallées du Pakistan, etc. Eh bien, on pourrait se dire le problème vient d'une sorte d'asymétrie et d'une mise à distance en sécurité d'opérateurs qui tirent sur des gens qui, eux, sont, on pourrait dire, sans défense. Mais d'une certaine manière, ce problème-là n'est pas un problème neuf. La guerre a toujours été une recherche d'une asymétrie et la mise à distance des combattants a débuté depuis le début de la guerre. C'est-à-dire progressivement, dans les conflits, les belligérants se sont mis à distance les uns des autres. Probablement que le problème qui est montré dans Eye in the Sky, hein, ou bien dans Good Kill, etc., dans ces deux films que je vous conseille de voir. Ces deux films sont vraiment très, très intéressants. Peut-être que un des problèmes importants vient non pas tellement de cette asymétrie, etc., mais vient d'un autre problème, de deux problèmes. Je vais montrer la complexité de cela. Un, l'opérateur est à distance, et donc, de fait, on peut avoir des opérateurs qui ont une tendance à faire un jeu de la guerre comme s'ils étaient devant un jeu vidéo. Bon, ça, c'est un des risques. Mais le risque est aussi le fait qu'ils sont à distance, donc, mais ils voient beaucoup mieux qu'autrefois les effets de leur action. Donc, en fait, un des problèmes énormes de ce genre de choses, c'est qu'ils sont à la fois à distance en sécurité, mais ils sont extrêmement proches de la cible. Ils suivent à longueur de journée des cibles qui se déplacent, etc. Et donc, il y a un effet, si vous voulez, qui est important et qui est d'ailleurs relevé dans les aumôneries militaires, un effet de, à la fois, je suis en sécurité, mais je vois, je porte en moi les images d'un beaucoup plus qu'avant. Si je suis dans un B-52 à très haute altitude et je bombarde le Vietnam, comme c'était le cas durant la guerre de Vietnam, je ne vois pas les effets de mon bombardement. Tandis que ces opérateurs de drones le voient de manière beaucoup plus directe. Donc, il y a toute une série de questions qui se posent là, mais la question éthique la plus fondamentale n'est pas là, c'est que on pourrait faire croire que c'est une guerre sans risque d'un côté. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la théorie du zéro mort, qui a d'ailleurs été très bien décrite dans un livre de Chamaillou, la théorie du drone, on pourrait croire ça. Et je voudrais insister sur le fait que le vocabulaire nous piège. Zéro mort ou guerre sans victime, j'ai dit tout à l'heure, nous voulons faire la guerre à distance sans perdre de personnes, etc. Mais c'est un leurre. Parce que en réalité, nous allons violer beaucoup plus le droit international humanitaire par ce genre de conflit. Pourquoi ? Parce que justement, la guerre est la recherche de la symétrie. On dit parfois, on aura... moi, j'ai entendu des gens qui disaient « Oui, mais ultimement, on aura simplement des guerres entre robots. Oui, on enverra nos robots et les robots se battront quelque part dans un désert. Voilà, qui gagnera ? Un peu comme les courses de robots. Et, voilà. Et celui qui gagne, voilà, c'est le gagnant. Mais non, ça ne se passera jamais comme ça. Parce que, justement, la guerre, c'est la recherche de la faiblesse de l'adversaire. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est qu'un certain nombre de rapports montrent qu'il y a une corrélation entre la croissance du terrorisme et ce genre d'attaque. Parce que si vous ne perdez pas, vous, des personnes, des soldats, etc., alors on va essayer de vous faire payer d'une autre manière. Mais qui va payer ? Pas les militaires, ce sont les civils. Donc on montre une certaine perversion, si vous voulez, qui fait qu'à la longue, on pourrait avoir plus de victimes civiles, si vous voulez. Et des rapports de des écoles de droit de Harvard et de New York ont montré cela, si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer, une corrélation très nette entre des reprises du terrorisme et les tirs de drones. Deux, on pourrait se dire, maintenant vous entendez parler de, et c'est, le vocabulaire est une des fautes éthiques les plus grandes dans ce domaine-là, c'est l'emploi du vocabulaire. On entend parfois une frappe chirurgicale a eu lieu et un drone a éliminer telle cible. Vous voyez ? Une frappe chirurgicale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable d'éliminer une personne au centimètre près. Ça, c'est tout à fait vrai. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a effectivement un rayon autour où tout est détruit aussi. Mais c'est vrai que les tirs sont extrêmement précis. Frappe chirurgicale. Mais le résultat, c'est que toute personne qui est un peu intelligente va donc placer toutes les installations militaires en dessous des écoles ou des hôpitaux. Parce que la frappe chirurgicale va alors faire des dégâts collatéraux et vous allez commettre une faute en droit international humanitaire et vous allez être au banc de la société. Donc, alors qu'autrefois, après la Seconde Guerre mondiale, on mettait toutes les bases militaires à l'extérieur des villes pour éviter que les civils ne soient bombardés, aujourd'hui, dans les conflits aujourd'hui, on met toutes les installations militaires cruciales dans la population civile, si vous voulez. Donc, ultimement, nous allons peut-être avoir une augmentation des victimes civiles. Et donc, il y a toute une série de questions qui se posent en disant, il faut faire attention. On ne peut pas seulement dire, nous allons développer des robots pour faire une guerre de telle manière que nos enfants ne seront pas les victimes, nos soldats. Et c'est légitime, évidemment, de protéger ses propres soldats, bien entendu. Il ne faut pas mal comprendre ce que je dis. Mais en même temps, c'est peut-être un leurre. Cette protection pendant un certain temps va peut-être se retourner contre les civils humains. Donc il faut penser à cela aussi. Vous voyez, donc, je ne simplifie pas les problèmes, mais il faut penser à la satisfaction du droit international humanitaire dans toutes ces facettes, si vous voulez, bon, pour éviter d'avoir des risques accrus pour les populations civiles. Donc le jus in bello, si vous voulez, dans ce cas-là, la satisfaction du principe de jus in bello risque d'être complexifié. Maintenant, dans le contexte de guerre, une des questions les plus importantes, donc c'est la satisfaction du principe de respect de la distinction civile combattant, le respect de la proportionnalité, et ça, il faudrait savoir si les machines sont capables de faire de telles choses. Mais le gros problème, du point de vue légal et éthique, c'est la délégation de la responsabilité ou la dilution des responsabilités derrière des machines. Donc, qu'on le veuille ou non, si vous voulez, on délègue un certain nombre de pouvoirs régaliens à des machines. Mais en déléguant à des machines, on peut d'une certaine manière faire comme si nous, on n'avait plus la responsabilité qu'on délègue aux machines. Si vous voulez. Mais une machine n'est jamais responsable, puisqu'elle ne peut jamais répondre de ses actes. Alors vous pourriez me dire, un jour j'ai fait un exposé comme ça et un chef d'entreprise, une entreprise chimique, m'a dit, mais non, il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose qui se passe dans mon entreprise, c'est moi qui suis responsable, voilà, il n'y a pas de problème. Même si les machines qui ont dysfonctionné, c'est moi le responsable. C'est vrai. Hein, si on fait faire quelque chose par d'autres, et qu'il y a un dommage, ben c'est celui qui l'a fait faire qui est le responsable. Mais, dans toutes les médiations, quand on a des médiations technologiques complexes, hein, il est d'une certaine manière tentant, voire il est parfois, c'est le cas, de la perte du sens de la responsabilité derrière les écrans technologiques. Donc si vous avez une multitude d'acteurs, machines et humains, etc., qui finalement provoquent des dommages collatéraux, c'est extrêmement difficile d'aller établir de manière très précise toutes les responsabilités. Si vous déléguez à une machine, c'est très facile de dire c'est pas moi, c'est la machine a dysfonctionné. Vous voyez, le drone a par hasard lancé un missile, mais c'était le système de reconnaissance de forme qui n'était pas au point, etc. Donc il est plus facile de se cacher ou de cacher un certain nombre de responsabilités ou de ne pas les prendre quand on a des intermédiaires technologiques. Donc d'une manière fondamentale, ça ne change pas le problème de la responsabilité. La machine n'est jamais responsable. Celui qui est responsable, c'est celui qui l'a mis en œuvre. Mais il devient relativement facile de se cacher derrière des médiations technologiques. Et le risque, c'est de déléguer pour éviter de prendre un certain nombre de responsabilités. Donc il y a un certain danger dans cette dilution ou cet effacement de la responsabilité derrière des écrans. Deuxième danger, c'est que à force de déléguer à des machines autonomes, on perd le sens profond de l'action. En finance, par exemple, je sais pas moi, 100 000 transactions boursières à la seconde, quel est encore le contenu réel de l'économie, si vous voulez? Ça n'a plus de sens. 1 million de transactions à la seconde. Quel est le sens de l'économie humaine, si vous voulez, dans ce contexte-là? De la même façon, à force de déléguer à des machines, on pourrait voir se dépolitiser les actions. Donc les intentions profondes des pays pourraient simplement s'effacer derrière une sorte de logique de la machine, où, dans le fond, la machine impose aux politiques et aux militaires un certain type d'action qu'éventuellement ils n'auraient pas voulu. Aujourd'hui, les machines sont si performantes qu'il est difficile de leur résister, non ? Les étudiants auxquels je dis ben, faites tel calcul, ils font, voilà, ils prennent leur machine, ils font leur téléphone, ils font des opérations, etc. Et ils disent mais faites-le vous-même. Ah non, la machine, c'est la machine. Pourquoi ? La machine est plus performante. Oui, c'est vrai, mais d'une certaine manière, ça montre à quel point nous sommes séduits par la machine. Mais c'est plus facile d'aller voir sur Wikipédia directement la machine à la réponse. Vous dites non, c'est pas vrai. Ce qu'il y a dans Wikipédia, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas capable d'ingurgiter autant d'informations. La machine a une sorte de fascination. Et dans le fond, si on délègue des opérations militaires, des actions militaires à une machine, si cette machine est faite à une performance très grande, etc., si vous dites non, je ne suis pas la machine, comme l'a fait Petrov, non, je ne suis pas les machines. Il faut déjà avoir un courage énorme et un jugement extrêmement fin, une intelligence et une éthique profonde pour dire « je ne suis pas la machine ». Non, aujourd'hui, il y a une fascination par la machine qui pourrait, d'une certaine manière, progressivement, faire que la délégation soit, en fait, immédiate du fait de la séduction des performances. Et le gros danger, au point de vue moral et légal, c'est pas la machine. C'est l'humain. C'est l'humain fasciné par la machine. Bien. Alors, j'en viens à, rapidement, puisque je ne peux pas être trop long, mais je voudrais signaler, après avoir donné une piste d'entrée dans ces questions-là, je voudrais signaler que souvent, on évite les questions épistémologiques et cet effacement de l'épistémologie présente pour moi un problème éthique. C'est-à-dire que par exemple, on va faire comme si la réalité que traite la machine, la représentation que la machine possède, est identifiable à la réalité. Un peu comme si la représentation de la réalité dans les algorithmes correspondait à la réalité, si vous voulez. Hein. Ce que la machine représente est la réalité. Par exemple, si on a des machines qui font du traitement automatique de décision, eh bien on va dire une décision, un jugement réel est isomorphe à ce que la machine fait. On confond souvent représentation et réalité. Intelligence artificielle et intelligence. Oui. Et on va confondre les deux. Mais ça, c'est une faute épistémologique. La représentation de la réalité n'est jamais identique à la réalité. Par exemple, vous allez dire, oui, mais je vais faire un robot militaire qui va avoir des émotions et qui va d'une certaine manière réagir avec des émotions. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, on a des robots extrêmement performants pour détecter des émotions, pour simuler des émotions. Il faut voir les beaux travaux écrits par Laurence de Villers, etc. Très beaux travaux. Mais simuler des émotions, ce n'est pas la réalité des émotions. Vous voyez, on peut très bien faire un robot qui simule aussi bien que vous voulez un être humain, mais la simulation n'est jamais la réalité. Mais aujourd'hui, on a tendance à effacer cette distance. Et ça, c'est une faute épistémologique, mais ça conduit à un certain nombre de fautes de type éthique, du genre... eh bien, on pourrait remplacer un officier par des robots androïdes doués d'émotions. Mais est-ce que le corps simulé, c'est le corps réel? Non, c'est une faute. D'ailleurs, si on regarde précisément ce que faisait Turing, vous avez entendu parler évidemment du Turing test, l'imitation game, le test de l'imitation de Turing, souvent on entend dire, oui mais Turing, sur base de ce test de l'imitation... Finalement, s'il est passé, c'est-à-dire que si on ne voit plus statistiquement de différence entre les réponses données par un homme, une femme ou une machine, alors homme, femme, machine, tout ça, ce serait la même chose. Mais Turing n'a jamais dit ça. Il a poussé le plus loin possible la calculabilité pour voir où elle allait décrocher. Mais il n'a jamais prétendu que c'était la même chose, que l'imitation était strictement la même chose que la réalité. Or, aujourd'hui, on a un peu tendance à dire que si on parvenait à faire des combattants synthétiques, si vous voulez, des robots doués de toute une série d'attributs humains simulés, alors on aurait la même chose que des décideurs humains. Mais non, un robot imitant l'humain le mieux possible ne sera jamais responsable. C'est une chose et non pas une personne. Or, cette distinction est fondamentale dans le droit. Mais on fait comme si elle était effacée. Donc c'est une faute qui est extrêmement grave aujourd'hui. Hein. Un robot n'est jamais qu'une chose. Il ne peut pas être une personne. Et le robot lui-même ne peut pas répondre. Et c'est le sens de la responsabilité. Hein, il ne peut pas être responsable. Or, petit à petit, face à la réussite des simulations, on a tendance à effacer la différence entre les personnes et les choses. Et il n'y a pas si longtemps, dans des débats sur ces questions-là, quelqu'un disait, mais peut-être que on devrait attribuer à ces robots autonomes un statut hybride entre les personnes et les choses. Par exemple, je ne sais pas moi, il y aurait les choses, il y aurait le vivant sensible, comme les animaux, et il y aurait aussi une espèce de vivant non sensible, les robots, et puis il y aurait les personnes humaines, si vous voulez. Ou bien dans le sens, choses, vivant non sensible, vivant sensible, et puis les personnes, avec une espèce de spectre, vous voyez, de sujets de droit. Mais c'est extrêmement dangereux de faire cela, si vous voulez. Extrêmement dangereux. Et d'une certaine manière, que diront les victimes de dégâts collatéraux lorsqu'ils auront devant eux simplement des robots pour leur répondre, si vous voulez. Le problème, c'est de nouveau une perte de la prise de responsabilité en se cachant derrière des représentations et non pas derrière la... Enfin, non pas en prenant ses responsabilités, mais en se cachant derrière des simulations. Bon. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ces discussions épistémologiques, mais je voudrais simplement signaler qu'un certain nombre de discussions épistémologiques qui pour nous sont d'une certaine manière, je ne vais pas dire évidentes, mais qui sont classiques pour nous, sont oblitérées aujourd'hui dans ces débats. Hein. Par exemple, on irait jusqu'à dire que on peut tout calculer, le mythe du tout calculable. Hein, donc le fait de dire on aura des machines qui calculeront tellement bien qu'elles pourront, d'une certaine manière, vérifier la satisfaction des principes du droit international humanitaire, qui pourront vérifier les règles d'engagement dans des conflits particuliers, qui pourront voir et reconnaître le mieux possible la distinction entre combattants et non-combattants. Mais ça, d'une certaine manière, c'est une illusion. Et je voudrais ici faire une toute petite allusion à quelque chose qui entre dans le débat aujourd'hui, dans le domaine militaire, des robots militaires, c'est les moral machines, les machines morales. Oui. Ron Arkin, qui est un ingénieur de la Navy, a, dans les discussions internationales et dans les écoles militaires, proposé d'introduire dans des robots autonomes, proposé d'introduire des logiciels qui, finalement, mimeraient le jugement humain, jugement au niveau légal et au niveau moral. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'intitule « Gouverner le comportement létal des robots autonomes »,« Governing Lethal Behavior of Autonomous Robots ». Dans ce livre, il dit « Eh bien, nous allons pouvoir construire des robots militaires qui, dans le fond, seront plus performants que les humains, parce que les humains, eux, ils ont des sentiments de vengeance, ils sont fatigués, ils sont énervés, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, etc. Et les Américains sont fortement marqués par des événements durant la guerre du Vietnam, entre autres My Lai, où une troupe qui était excédée, fatiguée et qui avait eu des pertes, s'est lancée sur un village, l'a détruit complètement, etc. Ça a été l'horreur absolue. Et Arkin prétend que si on avait des robots qui satisfont précisément avec des algorithmes au droit de la guerre, etc., ce genre de choses ne se serait pas produit. Bon. Que penser de ça? Bien, d'une certaine manière, il faut retourner aux limites des algorithmes. Souvent, on traite la question à très haut niveau d'un point de vue éthique, mais la question est de savoir, est-ce qu'un algorithme peut reproduire toutes les dimensions d'un jugement légal et moral? Or ça, c'est une très vieille question, puisque déjà dans l'éthique à Nicomaque, Aristote dit quelque part que la phronesis, le jugement de prudence, n'est pas une déduction mathématique. Hein. Mais ça renvoie aussi à un débat que nous avons eu dans les années 1950 dans le domaine de la philosophie du droit, quand s'est introduit, à partir du successeur de Wittgenstein, von Wright, s'est introduit la logique déontique et la volonté de traduire le raisonnement juridique en termes de logique formelle. Et il y a eu un débat dans les années 50 entre cette école-là, l'école des logiciens déontiques, et Chaim Perelman, ce logicien et juriste, philosophe du droit de l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la rhétorique juridique, qui a essayé de montrer quels sont les aspects du jugement que l'algorithme ne peut pas maîtriser. Bon. Et on pourrait dire la qualification d'un fait, dépend du contexte, dépend des intentions, homicide volontaire, homicide involontaire, etc. Donc, pour qualifier un fait, il faut toute une série d'éléments qui sont difficilement algorithmisables, parce que justement, la reconnaissance d'une intention, la reconnaissance de toute une série d'éléments du contexte, échappe à la règle universelle de l'algorithme. On ne peut pas programmer dans un algorithme un ensemble de cas tout à fait singuliers, alors que l'algorithme tient compte de règles uniquement universelles. La prudentia chez saint Thomas, les éléments, les dimensions de la prudence montrent bien qu'on n'est pas seulement dans le cadre de quelque chose de l'universel. On échappe aux règles universelles. Or, dans le cadre de la robotique militaire aujourd'hui, certains prétendent qu'on pourrait d'une certaine manière passer outre de la qualification des faits ou qu'on pourrait d'une certaine manière reproduire adéquatement le jugement de prudence à une simple déduction. Alors que le jugement de prudence est un jugement qui se fait dans un contexte particulier où, d'une certaine manière, on doit reconnaître quelle est la règle universelle qui s'applique dans tel cas. Or, il n'y a d'une certaine manière pas de règle universelle de reconnaissance de la règle dans un contexte très contingent et particulier. dans la robotique militaire aujourd'hui, s'introduit ce genre de choses. Et, d'une certaine manière, on pourrait dire, qu'avons-nous à apporter, nous, comme universitaires catholiques, si vous voulez, ou comme théologiens moralistes, etc., qu'avons-nous à apporter dans ce débat sur les robots armés? Longtemps, moi, j'ai cru, oui, je vais terminer, longtemps, moi, j'ai cru que, en fait, ma présence parmi les gens que je côtoyais dans les écoles militaires, etc., dans les débats de la conférence, conférence à l'ONU, etc., était d'une certaine manière un petit peu un hasard. J'avais peut-être pas grand-chose à apporter. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, un jour, j'avais risqué de faire une référence dans cette conférence sur les armes conventionnelles à l'éthique à Nicomaque et aux différentes dimensions de la prudence chez saint Thomas. Et un certain nombre de personnes dans la discussion m'ont dit « Mais c'est la première fois que quelqu'un nous explique. » Nous, on croyait que finalement les algorithmes allaient nous apporter la solution. Et d'une certaine manière, effectivement, l'apport d'une tradition philosophique qui insiste sur le jugement de prudence était un apport intéressant pour eux, pour montrer la différence qu'il y avait entre une machine qui applique des règles, vous voyez, axiomatiquement, et la complexité du jugement moral et même légal. Et travaillant sur ce que c'est que, d'une certaine manière, un jugement du point de vue du droit, le débat a pu avancer. Et dans le fond, des personnes disent, mais oui, il y a un fondement rationnel pour, d'une certaine manière, se méfier de la transformation de la décision légale en algorithme. Bien. Alors, je termine en disant ceci. Donc, j'ai montré en disant ceci quel pourrait être notre rapport à partir de notre tradition. Je pense qu'encore aujourd'hui, on pourrait dire une réflexion en profondeur sur le jugement de prudence peut apporter des choses importantes dans le contexte des discussions sur ces techniques de robotique militaire. Et probablement que nous avons autre chose à faire aussi, c'est d'essayer de montrer que, et c'est ce que, d'une certaine manière, l'Église fait, c'est que le droit ne suffit pas. Le droit est une médiation essentielle, mais le droit dans ce genre de questions ne suffit pas. Il faut absolument que l'on travaille à l'introduction d'une anthropologie qui motive et soutient l'application du droit. Or, dans toutes ces réflexions, on a perdu de vue, par exemple, que la paix n'est pas qu'une question légale ou une question technique, mais qu'elle implique beaucoup plus. Et il me semble que l'apport aujourd'hui du pape François, dans la ligne de Vatican II, bien sûr, de Gaudium et Spes, etc., apporte quelque chose d'extrêmement intéressant sur une conception de la paix qui n'est pas qu'une absence de conflit, mais qui est la constitution d'une situation basée sur un bien commun et sur une éthique de la fraternité basée d'une certaine manière sur l'unité des personnes, unité dans l'amour. Bon. Le fait que l'Église puisse apporter quelque chose qui montre que le droit ne suffit pas, mais que quelque chose de l'ordre du bien commun doit être introduit dans ce débat, est pour moi essentiel. Et je terminerai en disant, pour penser correctement les robots militaires dans ce contexte, il faut probablement prendre comme horizon une sorte de principe de non-contradiction anthropologique. Voulons-nous introduire des armes qui, ultimement, vont briser la communauté humaine ou se retourner contre l'humain, dépolitiser ses actions, vider de son humanité les responsabilités importantes des humains. Et je pense que une des tâches que nous pourrions faire en prenant toutes ces questions compliquées, c'est de repartir d'une anthropologie chrétienne pour voir comment on peut remettre l'humain au cœur de ces questions. Oui, les algorithmes, d'une certaine manière, vident les actions d'un certain nombre de leur contenu. Ils vident les actions de leur contenu politique, de leur contenu éthique, de leur contenu humain. Ils vident les relations humaines de leur contenu corporel. Le corps est évacué. Oui, le robot est interposé entre les belligérants et les relations ne sont plus des relations véritablement humaines. Or, on montre en diplomatie et dans les conflits d'aujourd'hui que la relation humaine est extrêmement importante. On pourrait se dire, on va amener des robots, comme ça on va gagner plus vite la guerre. Mais si la guerre, c'est d'une certaine manière pas l'absence de conflits, mais la restauration de la paix et de l'unité entre les personnes, c'est pas avec des machines que l'on pourra le faire. Donc, remettre de l'humain, ça veut dire remettre des corps, hein, pas seulement des intelligents, mais aussi remettre des corps. Et je terminerai en citant cette chose qui m'a frappé, c'est que dans une discussion avec un officier qui revenait donc d'Afghanistan, qui m'avait dit que, d'une certaine manière, ce qui avait sauvé la paix dans une certaine circonstance, c'était simplement de s'adresser aux personnes en enlevant ses lunettes, son casque, en se désarmant et en se présentant dans un dialogue de personne à personne, alors que les soldats revêtus de leur gilet pare-balles, de leur outil technologique, étaient d'une certaine manière, établissaient des barrières qui interdisaient d'une certaine manière la pacification. Vous voyez, remettre des corps là où les corps ont disparu. Remettre du contenu de la responsabilité, de l'intention humaine, là où elle s'évacue par les algorithmes. Eh bien ça, d'une certaine manière, notre tradition théologique, tradition de l'incarnation, tradition d'une certaine manière de l'amour véritable, peut introduire quelque chose. Alors, utopie ou projet intéressant, je laisse ça pour le débat. Je vous remercie.
Merci beaucoup Dominique pour cette conférence très large donc qui nous a permis d'entrer dans le détail, et on dit souvent que le diable est dans le détail, et de fait c'est très important de pouvoir entrer dans ce détail des différents types de robots, entre robots automatiques, automatisés, autonomes, les questions effectivement qui se posent dans notre société autour de une forme de fascination ou de reconnaissance plus ou moins implicite que les machines nous seraient vraiment très supérieures et que finalement on renoncerait peut-être à travers ça finalement à ce qui fait quand même la richesse de l'humain, notamment du côté du jugement et de cette capacité à s'adapter à des circonstances très changeantes. Donc ce côté aussi général de l'intelligence humaine, alors que l'intelligence, si on peut parler de l'intelligence des machines, est au contraire très spécialisée. Alors maintenant, nous avons un temps donc pour des questions, soit d'éclaircissement. Peut-être qu'on va en prendre plusieurs pour que regrouper aussi des thèmes.
Bonsoir. J'avais deux questions plutôt sur la première partie, c'est-à-dire sur la description de ces nouvelles armes. La première, c'est, on dit capteur, processeur, effecteur. Il manque un terme techniquement, il faut de l'énergie pour cette autonomie. Et d'où vient cette énergie, comment elle est stockée, évidemment, n'est pas du tout un détail, c'est peut-être un détail infernal où l'enfer se cache, mais c'est un détail important. Et donc ça, c'était une question un peu technique, pardon. La deuxième, c'est Vous nous avez bien montré s'il fallait nous en convaincre, mais j'en suis encore plus convaincu en vous ayant entendu sur la complexité qui rentre dans ces machines. Cette complexité technique demande une maîtrise d'ingénieur et donc de process de fabrication très importante. On sait que les vendeurs d'armes dans le monde sont, on les identifie bien. Je me dis, je veux dire juste une petite, est-ce que quand j'achète une arme à un vendeur d'armes de cette sophistication-là, je peux avoir confiance qu'elle va faire ce qu'elle dit, ce qui est sur le prospectus, disons. En fait, je peux toujours avoir dans une arme de ce type un petit truc caché qui fait que si tout d'un coup cette arme est retournée contre le pays du fabricant, avec mon Bluetooth, je l'inactive. Je veux dire, rentrer dans le jeu de la complexité, la question de qui fabrique pour qui.
Oui, tout à fait. Non, c'est des questions tout à fait importantes. Donc, la question de la production de l'énergie, dans le lien entre capteur, effecteur et processeur, cette question de l'énergie est centrale d'un point de vue technique. Vous avez tout à fait raison, hein. La deuxième question aussi aujourd'hui, ces armes, contrairement au nucléaire, ces armes sont souvent liées à des choses qui sont produites dans différentes filières, qui sont des filières à la fois civiles et militaires. Et donc le risque d'avoir ce qu'on a d'ailleurs déjà avec l'intelligence artificielle, le risque d'avoir effectivement des systèmes dormants inactifs qu'on peut activer, etc. Ou le problème que vous posez est double. Il y a ce problème-là. Donc, problème de fiabilité, hein, malhonnête, mais il y a aussi le cas de systèmes tellement complexes qu'on ne parvient plus à expliquer totalement. C'est pas le problème de la transparence des algorithmes, etc. Donc, on va entraîner des machines à faire certaines tâches, mais si elles dysfonctionnent ou si elles font des choses intéressantes, on ne pourra plus expliquer comment elles sont arrivées. Or, d'un point de vue légal, s'il y a un dommage lié à l'intelligence artificielle ou à un robot, je dois pouvoir expliquer à la victime pourquoi elle a été victime. Or, dans le cas des systèmes sophistiqués, introduisant de l'intelligence artificielle à haute dose, les algorithmes étant non transparents, on ne pourra plus nécessairement répondre à cela. Et donc, effectivement, ce que vous dites, c'est la complexité va poser des problèmes spécifiques du point de vue légal et éthique. Parce que la capacité à répondre de ces actes ne sera plus assurée de la même façon. Merci, merci.
Oui, il y a de là aussi.
Oui. Je voudrais continuer sur cette réflexion-là. Les algorithmes qui sont issus de l'intelligence artificielle ne sont pas qualifiables. On ne connaît pas véritablement le résultat qu'ils vont donner. Donc, on ne sait pas comment va réagir la machine. Mais en quoi est-ce que c'est perturbant d'un point de vue du droit? Est-ce que le droit aujourd'hui n'est pas déjà bafoué par le terrorisme? Est-ce que les droits de la guerre sont toujours applicables? Pourquoi est-ce qu'on s'appuie à essayer d'écrire des droits alors que les dommages collatéraux existent depuis toujours? Quand on a bombardé la Normandie en 44, on n'a pas fait attention aux civils.
Non. Vous posez une question très importante. C'est ce qui est souvent posé en disant oui, mais de toute façon, le droit international humanitaire est de toute façon bafoué lors de tous les conflits. Mais on pourrait se dire c'est vrai. Et vous faites allusion au bombardement, on pourrait dire Dresde, et on pourrait de tous les côtés, on a bafoué les droits internationaux humanitaires pour des tas de raisons. Bon. Mais moi je dirais, il y a quelque chose de l'ordre de l'espérance, parce que si on élimine le droit international humanitaire, en disant mais de toute façon on va de toute façon bafouer ça, donc ça ne sert plus à rien de le maintenir, Alors je crois qu'on perd quelque chose d'important qui est une sorte d'horizon. Bien sûr, il est bafoué, mais ultimement, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, moi je dirais, est-ce qu'aujourd'hui nos pays alliés referaient ce qu'ils ont fait à Dresde ou à Hiroshima ou à... Il y a aujourd'hui la conscience que des choses qui n'avaient pas nécessairement un intérêt militaire direct ne seraient peut-être pas faites de la même façon, non? On pourrait dire c'est un horizon qui exprime le respect de la dignité humaine, même dans des conditions où effectivement on sait qu'en gros ça va être bafoué. C'est comme si on disait, dans le cas de la lutte antiterroriste, on commençait à se dire, mais finalement, l'interdit de la torture, ben on va le laisser complètement tomber pour des questions d'efficacité, etc. Mais on voit bien que si on commence à faire ça, on va sombrer soi-même dans une sorte de barbarie. C'est-à-dire maintenir un horizon. Mais je ne dis pas que c'est facile. Hein, je suis d'accord avec vous que dans tous les conflits, on a bafoué ça. Mais l'abandonner voudrait dire qu'au niveau de la communauté internationale, on abandonnerait la référence à une sorte consensuelle, à une sorte de dignité. Or, ce qui me frappe, hein, donc pour dire pratiquement les choses, hein, par exemple, la conférence sur les armes conventionnelles, tous les pays s'accordent sur la nécessité de maintenir le droit international humanitaire et font référence, par exemple, à la clause de Martens, qui est une clause qui fait, d'une certaine manière, référence à la dignité des personnes et aux exigences de la conscience publique quand il n'y a plus de droit qui fonctionne. Mais on pourrait se dire, c'est peut-être pratiquement rien, mais c'est l'expression que, dans des assemblées internationales, la communauté des nations estime que même s'il la bafoue localement, cette référence à la dignité est importante. Donc, je ne veux pas, moi je ne suis pas, je veux pas être simpliste, et tous les exemples historiques montrent que de fait, ça dérape, mais je me dis, que serait encore notre humanité dans un monde où on dirait, ben, on abandonne ça. Oui. Localement, des gens se sont élevés contre la torture, contre le... Donc, il y a eu une très belle étude sur la psychologie des officiers, d'ailleurs à l'université de Namur, qui a été faite par un colonel de l'armée belge et une des responsables de la juridique de la défense, et qui ont analysé des comportements éthiques des officiers. Eh bien, c'est assez intéressant de voir que, par exemple, dans le cas de My Lai, par exemple, hein, il n'y avait plus de direction morale. C'est-à-dire que l'officier responsable n'avait plus d'autorité sur sa troupe. C'est-à-dire qu'il n'avait plus d'autorité morale, parce qu'on avait progressivement laissé aller les choses. Donc, moi, je pense que même si, globalement, il y a des dérapages qui se passent, etc., mais le témoignage local d'un officier qui dit non et qui dit, moi, même si je perds en efficacité, je respecte un certain nombre de choses, je trouve que ça peut changer beaucoup de choses. Et je trouve que si on l'abandonnait, il y a quelque chose, ne fût-ce que, il y a quelque chose de ce qui unit les nations, malgré leurs différences, qui risquerait d'être perdu. Voilà. Mais je vous accorde que, une fois que j'ai dit ça, tous les exemples, contre-exemples sont présents dans mon esprit. Mais...
moi, j'avais une question un peu plus, enfin, je sais pas, technique à propos de la société de surveillance. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait atteindre un point d'équilibre de surveillance, ou si on a plus de surveillance, ça ferait craquer tout le système, et si on avait moins de surveillance, pareil, le risque serait trop élevé de tous les côtés? Est-ce qu'il y a un équilibre qui pourrait exister ou pas du tout?
Oui, non, c'est une très bonne question. Par exemple, qui se pose dans la gestion des données. Par exemple, on sait aujourd'hui que pour la recherche scientifique, médicale en particulier, nous avons besoin de données. Nous devons, disons, alimenter des algorithmes de recherche, par exemple sur les pathologies, etc., par des données. Hein? Donc, nous avons besoin de ça. Bien entendu, nous ne pouvons pas acquérir ces données n'importe comment, et dans le fond, aller jusqu'à entrer dans l'intimité des personnes, etc., pour obtenir ce genre de renseignements. Donc, l'équilibre, à mon sens, doit être recherché. Donc, dire, on va totalement exclure le fait que nous donnons des données aux algorithmes serait, à mon sens, pas très fructueux, parce que nous avons besoin, ne fût-ce que pour notre santé et pour notre sécurité, nous avons besoin de donner des données. Hein? Mais en même temps, nous devons mettre des limites à ça. Le règlement général sur la protection des données, hein, qui dit, vous pouvez acquérir des données, mais il y a un droit à l'effacement au bout d'un certain moment. Il y a une utilisation proportionnelle des données, etc. Je trouve, constitue ce que vous appelez le point d'équilibre. Maintenant, ce point d'équilibre n'est pas facile. Donc, jusqu'où aller dans l'intrusion, hein, pour garantir notre sécurité, hein, quelles sont les limites? Ça, c'est difficile, mais c'est vrai qu'il faut viser cet équilibre-là. Et qu'il y a deux écueils, effectivement, à éviter.
D'autres questions? Oui,
j'ai aimé votre point de chute quand vous parliez de la réintroduction de l'humain au cœur de tout ce système. Je me demande comment peut-on définir l'humain, puisque celui qui fabrique les armes pour les commercialiser et celui qui utilise ces armes, ils ont un objectif à atteindre. Et au nom de ce qu'ils pensent, ou disons, à partir des lunettes qu'ils portent, on peut se dire que ceux contre qui ils vont combattre sont moins humains. Alors, qui définit l'humain, finalement?
Mmh. Oui, définir ce qu'est l'humain, je ne vais pas définir ce qu'est l'humain, mais ce que je veux dire dans réintroduire l'humain, c'est réintroduire dans le contexte de la guerre, des opérations militaires, etc., réintroduire des sujets qui ne sont pas des machines, en faisant l'hypothèse que, et c'est peut-être là où j'introduirai quelque chose qui est de l'ordre justement de la nature humaine, réintroduire des sujets capables de souffrir, capables d'avoir une empathie véritable, capables d'un jugement véritable, capables de pardon, etc. C'est ça que je... Comment je définis l'humain? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est que l'humain est ce sujet capable de créativité. C'est-à-dire, la créativité, c'est finalement être capable de sortir de tout système de règles pour éventuellement sauver la règle. J'avais été fort frappé il y a une très belle citation de Mireille Delmas-Marty, hein, qui était professeure au Collège de France en droit international. Elle avait fait un article qui s'appelait « Le robot et le roseau », hein, roseau pensant, dans un colloque avec Jean-Pierre Changeux sur l'homme et la machine. Et elle dit ceci, donc les robots seront utiles au droit, etc. Bon. Mais il faudra toujours maintenir la fragilité du roseau, hein, le roseau pensant, parce que, disait-elle, l'humain seul, la machine pas, mais l'humain seul est capable de juger au bénéfice du doute et même de suspendre le jugement pour permettre la réconciliation et le pardon. Donc l'humain est le seul qui peut à un certain moment sortir du système de règles pour sauver quelque chose de l'esprit de la règle. Oui. Et ça, pour moi, c'est ça, réintroduire l'humain. Donc, en fait, c'est réintroduire la place irréductible d'un officier, en chair et en os, d'un décideur, qui est capable à un certain moment de sortir des règles, hein, de sortir des règles, par exemple, éventuellement de se mettre en danger, de peut-être de ne pas respecter tous ses objectifs, pour pour mettre en avant un certain nombre de valeurs qu'il considère être importantes et qui, si elles sont bafouées, vont se retourner contre l'esprit de la mission. Si vous lisez le livre du général Royal, hein, l'éthique du soldat français, dont le sous-titre est « Une conviction d'humanité », c'est un livre intéressant, c'est un livre de témoignage en fait. Et il montre dans différents exemples d'officiers qui, d'une certaine manière, n'ont pas suivi strictement les règles, mais pour sauver les valeurs. Donc, par exemple, vous pourriez dire, je dois déloger des insurgés, etc., mais seulement pour faire ça, je risque de tuer des enfants qui sont dans un hôpital, etc. Et je vais prendre le risque de ne pas maximiser mon intérêt militaire sur le moment. Je vais peut-être mettre en danger mes soldats, mais pour ultimement protéger la vie des enfants. Alors, en fait, dans ce livre, on voit que le fait d'avoir fait ça, d'avoir respecté ces valeurs, dans le fond, va interroger l'adversaire, d'une certaine manière. Et diplomatiquement, après, les gens se disent, mais c'est quelqu'un qui est capable de respecter les nôtres. Et donc, d'une certaine manière, le retour à la paix, à des relations, va être beaucoup plus fructueux. C'est ça que j'appelle remettre l'humain. Donc, mettre quelqu'un capable d'empathie, mettre quelqu'un qui est capable de ne pas suivre les règles comme une machine, voyez, pour faire face à des situations inédites. Mais le jugement moral, la prudentia chez saint Thomas, c'est la créativité. Non, parce que celui qui va prendre une décision morale dans un contexte où je ne sais pas nécessairement quelle est la règle à appliquer. Il va d'une certaine manière sortir du champ de l'application mécanique des règles pour produire un jugement, oui, pour faire de l'inédit, et tout en restant bien sûr dans la cohérence de l'éthique. Donc c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas trop bien comment définir l'humain, mais je sais qu'entre autres, l'humain est celui qui, à tout moment, est capable de sortir d'un système de règles pour sauver l'esprit des règles et l'esprit tout court. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Par exemple, ça voudrait dire dans le domaine, si je prends un petit analogue universitaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est confronté à des machines qui délibèrent. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, etc. Bon. Maintenant, nous, on arrive en délibération et on dit, c'est la machine qui a délibéré, vous signez le protocole de délibération. Oui. Mais remettre l'humain au cœur de la chose, c'est remettre quelqu'un qui est capable à un certain moment de dire, un étudiant n'a pas réussi tel examen, mais c'est parce qu'il a eu un décès dans sa famille, il a été malade, etc. C'est un excellent étudiant, je prends la responsabilité de le faire réussir, alors que les règles me l'interdisent. Ça, c'est remettre l'humain, vous voyez. Parce que si je fais rater un étudiant qui le mérite, parce qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille, ça c'est contraire à l'esprit des règles. Vous voyez, l'humain est celui... Mais notre société est une société aussi, hein, je ne l'ai pas dit, peut-être que je n'ai pas osé, mais introduire des machines, c'est aussi parce que notre société a perdu le sens de des responsabilités. De moins en moins, on accepte des décisions de décideurs responsables. Quelqu'un qui prendrait une décision en conscience pour engager courageusement l'avenir de la recherche, etc., ça, on supporte de moins en moins. On dit, ben non, non, il faut s'en remettre à des critères d'évaluation, à des rankings, Vous voyez, on est dans une mentalité de la standardisation, de la normalisation. Et donc, remettre l'humain, c'est remettre quelqu'un qui dit, oui, oui, tout ça c'est très bien, ce sont des indicateurs, etc. Mais, si je continue comme ça, je vais, à terme, devenir contradictoire avec l'humain. Principe de non-contradiction anthropologique, si vous voulez. Je ne peux pas faire une société dans laquelle ce sont les algorithmes qui me dirigeront. C'est la citation que j'ai sortie du père du Barle, hein, 1948. C'est un an après le célèbre livre de Bernanos, La France contre les robots. Hein, et c'est aussi l'année où est sorti le livre cybernétique de Norbert Wiener. Hein. Donc, le critère étant remettre l'humain au centre, c'est simplement dire... créer une société dans laquelle on ne sera pas contradictoire, où les machines ne nous détruiront pas.
Voilà.
Merci beaucoup. Je crois que ça fait une bonne conclusion. Peut-être juste un petit point, enfin, par rapport à ton expérience justement à l'ONU. Tu dis qu'il y a quand même une capacité à se laisser toucher aussi par Aristote, par Thomas d'Aquin, etc. Et parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir des positions un peu en retrait ou pour dire surtout il faut pas légiférer. Et dans ce cas-là, c'est pour en fait ça conduit vers des robots en fait ces systèmes d'armes autonomes létaux. Enfin, et quel est ton sentiment? Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a possibilité d'arriver à un accord ou enfin
on alors sait, dans l'état actuel des choses, malheureusement, probablement qu'on n'arrivera pas à un consensus sur les robots autonomes armés dans le cadre de la convention sur les armes conventionnelles. Peut-être pas. J'espère que oui, mais peut-être qu'on devra faire comme ce qu'on a fait pour les mines antipersonnelles, de faire une convention à l'extérieur. Mais il y a quelque chose, effectivement, il y a toute une série de nations qui sont conscients du problème. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si on prend la France, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, etc., il y a quand même un consensus pour dire que nous devons refuser des machines totalement autonomes, que ça n'aurait pas de sens, et qu'il faut garder la supervision de l'humain. D'ailleurs, il y a un rapport de votre ministre de la Défense nationale sur l'intelligence artificielle qui est disponible sur le web, dans lequel elle a insisté sur la supervision humaine. Donc je pense qu'un certain nombre de nations sont conscientes qu'on doit garder la supervision. Seulement, aujourd'hui, on est dans une logique de nouvelles fractures, parce que on se dit qu'il y aura peut-être de nouvelles menaces d'assaut de dessins de drones autonomes, et donc il faut y répondre par aussi des drones autonomes, etc. Et donc on réinvente, avec ces menaces, on réinvente une autre défense et on risque d'entrer dans une escalade. Donc c'est un des risques, moi je crois, qui est le plus important aujourd'hui, d'avoir une sorte d'escalade, d'autant que ces moyens sont assez faciles à mettre en œuvre.
Un grand merci en tout cas pour cette belle soirée.